Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à cette session d'information. Au micro, Nanit Talani. Au sommaire de ce lundi 2 décembre 2024, en Guinée, des émeutes meurtrières éclatent lors d'un tournoi en soutien au pouvoir en Ziré-Kouré. Sénégal, le massacre de Tiaroy deviendra un sujet d'enseignement scolaire. Un mémorial sera érigé. Tanzanie, Abdou Nongo, enlevé après avoir participé à des campagnes électorales, l'opposition accuse la police. Joe Biden accorde la grâce présidentielle à son fils Hunter avant de quitter la Maison Blanche. Trump choisit Kash Patel pour diriger le FBI et Massad Boulos pour renforcer les relations au Moyen-Orient. En magazine, focus sur Maurice Kanto qui dénonce une fraude électorale au Cameroun et le Tchad qui annonce la fin de son accord militaire avec la France.
Il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seul à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste.
Sport Chan 2025, la CAF termine sa visite d'inspection en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya avant le tournoi. Voici le journal. En Guinée, des affrontements violents lors d'un match de football en Ziré-Kouré dans le sud-est du pays ont fait des dizaines de morts d'après des sources médicales. Il y a des centaines de morts, une centaine de morts plutôt, des corps sont alignés à perte de vue dans l'hôpital, d'autres sont allongés à même le sol dans les couloirs, la morgue est pleine, a dit un médecin de l'hôpital régional sous anonymat. Des témoins rapportent que des supporters en colère ont envahi le terrain après une décision contestée de l'arbitre, déclenchant des scènes de chaos. La situation a dégénéré en émeute avec la destruction du commissariat local. Le tournoi était dédié au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Le gouvernement malien annonce avoir tué un important commandant rebelle Touareg, Fahad Ag Al-Mahmoud, ainsi que d'autres rebelles lors d'une frappe de drone sur la ville de Tizawatène au nord du pays. Plusieurs cadres du CSP ont été tués, dont le tristement célèbre Fahad Ag Al-Mahmoud, a déclaré Shoghi Ag, responsable de mission au ministère malien de la communication sur Facebook. Al-Mahmoud, membre clé de cette alliance, était responsable de la coordination entre les factions rebelles et des discussions sur l'accord de paix. Le président sénégalais Diomaye Faye annonce que l'histoire du massacre de tirailleurs africains par les forces coloniales françaises en 1944 serait désormais enseignée dans les écoles. C'était hier au camp militaire de Tiaroy près de Dakar, lors de la commémoration du 80e anniversaire du dit massacre. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
Au nom de la réappropriation de cette histoire, le président Diomaye Faye a annoncé que Tiaroy ferait partie des programmes scolaires. Un mémorial y sera érigé et un centre de documentation et de recherche créé. Des rues et des places porteront le nom de cet événement tragique de ces soldats pour inscrire leur sacrifice dans notre quotidien et notre histoire collective, a ajouté le chef de l'État sénégalais, affirmant que la journée du tirailleur est désormais sanctuarisée le 1er décembre. Il a salué le courage moral dont a fait preuve, selon lui, son homologue français Emmanuel Macron, en lui écrivant 3 jours avant ses commémorations qu'un enchaînement de faits avait abouti à un massacre. Le 1er décembre 1944, les forces coloniales françaises ont ouvert le feu sur des tirailleurs africains rapatriés après avoir combattu avec l'armée française en Europe et stationnés au camp militaire de Tiaroy. Ils réclamaient le paiement de l'intégralité de leurs arriérés de solde avant leur démobilisation. Les autorités françaises de l'époque avaient admis la mort d'au moins 35 personnes. Plusieurs historiens parlent de 400 morts.
En Tanzanie, le responsable de la branche jeunesse du parti d'opposition Alliance pour le changement et la transparence, Abdoul Nondo, a été kidnappé hier selon sa formation politique qui accuse les forces de sécurité. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Abdoul Nondo a été kidnappé dimanche matin près de la gare de bus de Mbezi en périphérie de Dar es Salaam alors qu'il revenait de Kigoma où il avait participé aux campagnes pour les élections locales dans l'ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé son parti, Act Wazalendo. Nondo a été kidnappé par 3 personnes que nous pensons être des policiers ou des membres d'autres forces de sécurité qui l'attendaient à l'extérieur de la gare routière, a déclaré Barala Maharagande, membre du parti. La police dit avoir ouvert une enquête après cet enlèvement mené par des individus utilisant un Land Cruiser blanc. En septembre, un responsable d'un autre parti d'opposition, Chadema, Ali Mohamed Kibao, a été forcé de descendre d'un bus par des hommes armés puis retrouvé mort le lendemain. Chadema avait accusé les forces de sécurité de ce meurtre. L'enlèvement d'Abdoul Nondo intervient moins d'une semaine après les élections locales qui ont vu le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1961 rafler près de 99% des sièges selon les résultats officiels. L'opposition a dénoncé des fraudes lors de ce scrutin qu'acte Ouazalendo a jugé manipulé et pas du tout crédible.
La présidente en Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, annonce la création de 2 commissions d'enquête sur le programme controversé de relocalisation des Maasai dans la région de Ngorongoro, dans le nord du pays. Depuis 2022, environ 82 000 Maasai sont déplacés vers le village de Moussera à 600 km en raison de la pression démographique et de la protection de la faune. Cependant, ce programme est dénoncé par des militants des droits humains et l'opposition qui parle d'expulsion forcée pour permettre l'organisation de safaris et de chasses privées. Les Maasai accusent le gouvernement de réduire leurs droits d'accès aux services de base, notamment les infrastructures scolaires et de santé.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden, qui cédera la place à Donald Trump le 20 janvier ici aux USA, se rend à Luanda en Angola aujourd'hui pour une visite qui prendra fin mercredi. Le démocrate de 82 ans avait prévu de faire ce déplacement en octobre avant de l'annuler en raison du passage d'un ouragan en Floride. Les précisions de Gaby Dorsila.
À Luanda, le président Joe Biden doit s'entretenir avec son homologue João Lourenço et prononcer un discours. Le président américain va évoquer divers investissements dans le pays et la région, à commencer par le couloir de Lobito, un gigantesque projet de voie ferrée reliant le port angolais de Lobito à la République démocratique du Congo. Ce projet inclut la construction d'un embranchement vers la Zambie pour acheminer des matières premières stratégiques telles que le cuivre et le cobalt. En recevant fin 2023 son homologue angolais, Joe Biden avait qualifié ce chantier, aussi soutenu par l'Union européenne, de plus important investissement américain de tous les temps dans le rail africain. Le président américain veut ainsi affirmer les ambitions des États-Unis face à la Chine. L'Angola est endetté à hauteur de 17 milliards de dollars auprès de la Chine, soit 40% du total de sa dette. Et le président João Lourenço cherche à diversifier les partenariats de son pays au-delà de la Chine et de la Russie. Washington voit aussi d'un bon œil le rôle de médiation joué par Luanda face au conflit dans l'est de la RDC.
Avant son voyage en Angola, Joe Biden a accordé une grâce présidentielle à son fils Hunter, qui faisait face à des accusations de fraude fiscale et de détention illégale d'armes à feu. Hunter a été pointé du doigt uniquement parce qu'il s'agit de mon fils et cela ne va pas, a affirmé Biden, évoquant une erreur judiciaire. Biden avait initialement affirmé qu'il n'interférerait pas dans les affaires judiciaires de son fils. Le président élu américain Donald Trump a nommé hier Kash Patel pour diriger le FBI, la police fédérale, et a annoncé l'homme d'affaires Massad Boulos comme conseiller pour le Moyen-Orient. Le point avec John Lindon.
Kash est un juriste, enquêteur et combattant de l'Amérique d'abord, brillant, qui a passé sa carrière à dénoncer la corruption, défendre la justice et protéger le peuple américain, a expliqué Donald Trump. Kash Patel devrait remplacer Christopher Wray, nommé à la tête du FBI en 2017. Sous le premier mandat de Trump, Patel, fils de migrants indiens, avait été conseiller à la sécurité nationale ou encore chef de cabinet au Pentagone. Il a écrit un livre sur l'état profond, théorie selon laquelle les bureaucrates du gouvernement œuvreraient dans l'ombre contre Donald Trump. Le président élu a aussi annoncé nommer l'homme d'affaires américano-libanais Massad Boulos comme conseiller pour le Moyen-Orient. Massad est un bon négociateur et un partisan inébranlable de la paix au Moyen-Orient. Il sera un ardent défenseur des États-Unis et de leurs intérêts, a écrit Trump. Boulos a construit sa fortune dans la vente d'automobiles au Nigeria. Son fils Michael Boulos s'est marié en 2022 avec Tiffany, l'une des filles de Donald Trump. Il a activement pris part à la campagne présidentielle pour convaincre la communauté arabe de certains États-clés de voter pour Donald Trump.
C'est tout pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles financières et économiques avec Nathalie Barge.
Selon le département américain de l'agriculture, le gouvernement sud-africain va autoriser des importations de maïs jaune et blanc génétiquement modifié en provenance des États-Unis. La sécheresse a entraîné une baisse de 22% de la récolte de maïs en Afrique du Sud. Récemment, Pretoria a autorisé l'importation de soja OGM américain pour combler le déficit de production. Le Botswana, premier producteur africain de diamants, a indiqué s'attendre à devenir début 2025 le second vocaux à la conférence Facets 2024 sur le diamant en Belgique. Le nouveau président a déclaré vouloir diversifier l'économie trop dépendante du diamant en se lançant sur le marché de l'énergie solaire et du cannabis médical. Un forum Création Africa destiné à soutenir les acteurs culturels français et africains se tiendra en 2025 à Lagos au Nigeria, après une première édition à Paris en 2023, a indiqué le président français Emmanuel Macron lors de la visite à Paris de son homologue nigérian Bola Tinubu. L'an dernier, le Nigeria était le premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne.
Restez avec nous pour un voyage dans le monde sportif. Nous appelons Élisée Oukpatin. Bonjour Élisée.
Bonjour.
On commence par la CAN féminine de handball du côté de Kinshasa et la RDC est en quart de finale.
Oui, le pays hôte a décroché sa qualification après sa victoire 32-24 aux dépens de la Guinée. Dans ce groupe B, l'Angola poursuit son sans-faute. Troisième victoire de suite pour les quadruples championnes d'Afrique qui ont battu le Cameroun 31-14 pour ce qui est du match choc de cette poule. Le Sénégal reste aussi invaincu dans le groupe A après avoir remporté son quatrième match 23-16 contre l'Algérie. L'Égypte classée deuxième a dominé le Kenya 45-17 et puis le Congo se rapproche de la qualification en quart de finale après avoir battu 25-21 le Cap-Vert. Les Diables handballeuses joueront leur qualification demain mardi face au Sénégal. Le programme de cette dernière journée des matchs de poule s'annonce alléchant et on aura Tunisie-Cameroun ou encore RDC-Angola.
Du volleyball au Togo et Noël Kokou-Tadegnon a été réélu président de la fédération.
C'est à l'issue du congrès électif qui a eu lieu à Lomé. Ancien joueur de volley-ball et actuellement journaliste de profession, il a été reconduit à la tête de la fédération pour un nouveau mandat de 4 ans. Très heureux, Noël Tadegnon revient sur son engagement à développer cette discipline.
Nous allons poursuivre ce que nous avons entamé déjà et continuer les chantiers ouverts depuis un moment sur le plan donc de la détection des talents, sur le plan de l'intensification des actions dans les écoles. Heureusement, le volleyball a été intégré donc au processus du championnat scolaire au Togo à partir de cette année. Où il est important que le Togo, qui aujourd'hui occupe la quatrième place au niveau du beach volley, puisse maintenir le cap, maintenir sa position, pourquoi pas aller encore de l'avant et travailler maintenant à trouver les moyens pour permettre aux équipes du volleyball à 6 de pouvoir aussi participer à des compétitions.
Noël Kokou-Tadegnon, président de la Fédération togolaise de volleyball, a noté qu'il a obtenu 20 voix contre 16 pour son challenger Kojo Minase d'Almeida.
Football à présent, et la CAF a terminé ce dimanche sa visite d'inspection du CHAN 2025 en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya.
Oui, les trois pays qui vont accueillir cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans le championnat sur le continent. Une seconde visite d'inspection, il faut le signaler, qui a donc permis à l'instance qui gère le foot africain d'évaluer les progrès des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations qui se tiendront dans ces trois pays de l'Afrique de l'Est du 1er au 24 février 2025. Il faut noter que ces nations se préparent également à co-organiser la Coupe d'Afrique des Nations de 2027.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie. Pour finir, découvrons les reportages et analyses approfondies dans nos dossiers du jour. Direction le Tchad. Les autorités de N'Djamena décident de mettre fin à l'accord de coopération militaire qui lie le Tchad à la France. L'annonce a été faite le jour de la célébration de la 66e journée de la proclamation de la République, mais aussi celle de la visite du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, au Tchad. Une décision diversement appréciée à N'Djamena. André Code Madingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point.
Le Tchad, dernier bastion de la France en Afrique francophone qui accueille des milliers de soldats français délogés du Mali, du Burkina et du Niger, envisage lui aussi le démantèlement des bases militaires françaises sur son sol.
La présence militaire française au Tchad ne se fonde pas sur une base réciproque. Le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté par ses autres. C'est le sacré principe de réciprocité.
Le président tchadien Mohamed Idriss Déby-Itno confirmant la rupture de l'accord de coopération militaire signé à l'époque dans un contexte différent avec les acteurs différents de part et d'autre. Aujourd'hui, dit-il, cet accord est devenu obsolète dans sa configuration actuelle. 66 ans après la proclamation de la République, il ne correspond ni aux réalités sécuritaires, ni aux géopolitiques et stratégiques actuelles, ni aux attentes légitimes des Tchadiens. Et ce choix intervient après l'attaque meurtrière d'une base militaire tchadienne sur une île du lac Tchad de fin octobre. Une attaque attribué à la secte Boko Haram.
Il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste.
Certains acteurs politiques de l'opposition expriment leur inquiétude. Pour Max Kamkoui, porte-parole du GCAP, le groupe de concertation des acteurs politiques, cette rupture aura de lourdes conséquences sur le quotidien des Tchadiens.
Les accords de défense et de coopération militaire ne se résilient pas de façon unilatérale, surtout dans un contexte de fragilité des frontières et du Sahel confronté à la lutte contre le terrorisme. Quel est l'intérêt pour un pays pauvre qui ne dispose d'aucun moyen, ne serait-ce que pour gérer l'incendie ou les inondations, d'arriver à une telle décision hors de toute procédure?
La coalition citoyenne Wakitama estime pour sa part que le départ des troupes françaises installées au Tchad depuis 137 ans est une revendication nationale, et Wakitama porte cette revendication depuis 2020 à travers des manifestations de la rue plusieurs fois réprimées par la police. Adoum Soumaïne est l'un des porte-parole de cette coalition citoyenne.
Wakitama prend acte de la rupture des accords de coopération militaire entre le Tchad et la France et elle exige que le pouvoir s'assume et va au bout de la logique. Il faut un calendrier précis et détaillé assorti d'un horizon à très court terme pour dire aux Tchadiens quand est-ce que ces troupes-là vont quitter le territoire.
Le président Mohamed Idriss Déby-Itno, lui aussi, ne veut pas perdre du temps.
Le gouvernement est instruit pour procéder à la mise en œuvre de ces décisions en prenant attache avec la partie française. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître. Notre pays croit en sa capacité de défendre son intégrité et assurer la sécurité de ses citoyens et leur bien.
La coalition citoyenne Wakitama exige du gouvernement de rompre également l'accord économique et instituant le franc CFA et l'accord culturel et scientifique qui protège la langue française au Tchad. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM. Ce dimanche 1er décembre 2024 marquait les 80 ans du massacre du camp de Tiaroy au Sénégal. Le 1er décembre 1944, des tirailleurs sénégalais ont été fusillés par les forces coloniales françaises pour avoir demandé le paiement de leurs soldes. Contre l'oubli et pour l'éclatement de la vérité, les autorités sénégalaises appellent à inscrire cette tragédie dans la mémoire collective. Le reportage de notre correspondant à Dakar, Wani Johnson Sambou.
L'ambiance était lourde ce dimanche au camp militaire de Tiaroy. Dans la chaleur des retrouvailles entre frères d'armes, les anciens combattants, tous blancs vêtus pour la plupart, exhibent fièrement leurs insignes et écussons. Mais leur plus grande fierté, disent-ils, c'est de pouvoir rendre hommage aux tirailleurs sénégalais tombés à quelques pas de là, il y a 80 ans, massacrés par leurs frères d'armes de l'armée coloniale française pour avoir réclamé le paiement de leurs soldes. Une tragédie avec beaucoup de zones d'ombre pour laquelle l'Afrique et le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye exigent l'éclatement de la vérité.
Je lance un appel aux acteurs étatiques et non étatiques de tous les pays concernés, y compris la France, afin de joindre nos efforts pour porter un regard lucide sur cet épisode sombre de notre histoire commune. Identifier les victimes et situer les responsabilités est essentiel pour ouvrir la voie à une réconciliation sincère.
La célébration du 80e anniversaire du massacre du camp de Tiaroy en présence de 5 chefs d'État africains est perçue comme une complainte contre l'oubli et la falsification de l'histoire. Un clin d'œil à l'ancienne puissance coloniale qui, après des décennies de refus, reconnaît ses torts et la légitimité des demandes africaines. Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie française.
Rien ne peut justifier que des soldats de la France aient ainsi retourné leurs canons contre leurs frères d'armes. Les douleurs encore si vives provoquées par cette plaie béante dans notre histoire commune, seul un travail de mémoire peut conduire à les apaiser. Il n'y a pas d'apaisement sans la justice, et il n'y a pas de justice sans la vérité.
Et la vérité, c'est aussi ce qu'attendent de la France les descendants des victimes, à l'image de Gabriel Baye, vice-président d'une association de mémoire du tirailleur basée à Menton, en France.
Je résumerai en deux mots, c'est enfin. Enfin, nous avons la possibilité d'éclater la vérité. Nous savons ce qui s'est passé. Nous voulons des noms sur les tombes.
Que chacun apporte sa part de vérité.
Pour la restauration de la vérité historique et la fin de l'omerta sur cet épisode tragique, le président sénégalais annonce quelques mesures parmi lesquelles l'érection d'un mémorial et d'un centre de documentation et de recherche dédié ou encore l'intégration dans l'enseignement de l'histoire des tirailleurs dans les curricula scolaires. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Les administrations douanières d'Afrique de l'Ouest et du Centre renforcent leur coopération pour faire face aux défis communs à leurs zones respectives. Des experts se sont réunis au Niger à cet effet et ont proposé des pistes visant à optimiser la sécurité et la lutte contre la fraude transfrontalière à travers la numérisation des systèmes douaniers. Précision dans ce reportage de notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Sentinelle des économies des pays, les services douaniers font face depuis des décennies à des défis énormes. Colonel Issa Traoré, de la Direction générale des douanes du Mali.
L'une des questions brûlantes en Afrique de l'Ouest, à laquelle les douanes effectivement font face, c'est les frontières fragiles. Donc dû notamment au terrorisme et aux différents conflits, ainsi que le trafic illicite transfrontalier.
Des défis qu'appréhendent également les administrations douanières d'Afrique du Centre avec leur propre réalité. Ibrahim Djoha, directeur du bureau de liaison chargé du renseignement pour l'Afrique centrale.
On dit déjà dans une sagesse africaine que lorsque la maison de votre voisin brûle, il faut commencer déjà à déplacer vos meubles. Et c'est dans cette lancée préventive que les administrations des douanes de la région ou même de AOC se mettent ensemble pour qu'ensemble elles puissent voir quels sont les mécanismes à mettre communément pour aller dans le sens de la modernisation telle que pensée par l'Organisation mondiale des douanes qui est l'instance fêtière de la région, de toutes les régions douanières du monde.
La réunion de Niamey a abouti à des conclusions majeures visant justement à renforcer la modernisation des administrations douanières d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Colonel Adam Mouzaroumey, directeur de la réglementation et de la coopération douanière du Niger.
C'est d'abord d'avoir des administrations de douane qui pratiquent les mêmes procédures. C'est d'uniformiser les procédures dans la région. C'est de faire en sorte que les procédures qui sont appliquées en RDC soient les mêmes procédures qui sont appliquées en Mauritanie, que les procédures qui sont appliquées au Sénégal soient les mêmes procédures qui sont appliquées au Tchad, et faire en sorte que les usagers ne se perdent pas lorsqu'ils quittent leur propre pays.
Reste la mise en pratique de ces propositions au grand bonheur des populations des deux zones. Marcelin Ayoro, inspecteur des douanes venu du Bénin.
On dit les frontières séparent, les administrations douanières rapprochent. Le souhait, c'est que nous nous tenons la main au niveau de l'Afrique centrale et occidentale afin que nous puissions faire des propositions qui puissent aider nos États, nos populations et puissent aider nos économies à ce que nos pays soient développés et pour le bien-être de chacun et de tous.
L'Afrique de l'Ouest et du Centre représente une région unique dans le schéma organisationnel de l'Organisation mondiale des douanes. Les administrations douanières de cette région se réunissent régulièrement pour harmoniser leurs pratiques afin de s'adapter au contexte mondial fait de grandes mutations. Abdul Razak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Pour clore cette section magazine, rendons-nous au Cameroun. L'opposant Maurice Kanto crie à la fraude suite à la publication des listes électorales provisoires. Selon le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, plus de 100 000 électeurs potentiels ont disparu des dites listes. L'organe électoral indépendant en charge des scrutins, ELECAM, évoque plutôt des irrégularités pouvant faire l'objet de requêtes. À Yaoundé, le point avec notre correspondant Emmanuel Jultap.
La réintégration de 120 000 électeurs sur les listes électorales provisoires survient un mois après l'alerte lancée par Maurice Kamto, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, sur des soupçons de fraude électorale. Le président du Conseil électoral, Eno Abrams Ekbe, clarifie cette situation.
Ces manquements, ces dysfonctionnements de l'appareil, cette année nous avons eu une affluence plus importante des électeurs. C'était la première fois. Et au vu des intempéries, la pluviométrie a été très importante cette année. On a eu des petits problèmes dans le fonctionnement de nos kits. Le DG vient de vous rassurer que tous ceux qui ont été omis sont remis dans les listes électorales. Donc attendons, disons le maçon au pied du mur, attendons le 30 décembre pour voir tous ces noms affichés. Donc c'est un faux. Je crois que c'est un problème d'une mauvaise compréhension ou un jugement d'intention. Je ne sais pas. Le professeur Maurice Kamto, qui est leader du MRC, il devait patienter. Je lui ai expliqué ça. Qu'il devait patienter pour attendre les listes définitives.
Des propos qui ont quelque peu tempéré les appréhensions des militants du MRC. Roger Justin Noah, secrétaire général du parti.
Nous prenons acte de cette déclaration du directeur général et attendons qu'elle soit effectivement mise en œuvre. Mais il faut reconnaître que cette déclaration du directeur général de l'ECAM est un aveu de tripatriage en cours que nous avons qualifié de fraude électorale.
Toutefois, à un an de l'élection présidentielle, le processus électoral continue à faire l'objet de nombreuses critiques. Amadou Youmou Koupit, député de l'Union démocratique du Cameroun.
Est-ce que l'ELECAM est matériellement nanti pour être à la hauteur des attentes? Je dois dire non. On parle de défaillance des kits. Il est question de doter l'ELECAM de moyens suffisants pour acheter de nouveaux kits.
Pour sa part, l'ELECAM dit œuvrer pour des élections crédibles au Cameroun. Éric Essoussé, directeur général des élections.
Il est important de relever que la révision des listes électorales est une opération effectuée par une commission mixte et inclusive qui intègre non seulement l'ELECAM, mais aussi d'autres acteurs comme l'administration les municipalités et les partis politiques et validé par un procès verbal signé par tous les membres.
Mais au sortir de la concertation entre les acteurs du processus électoral et Elections Cameroun, l'opposant Garga Hamann, président général de l'Alliance pour la démocratie et le développement, a indiqué qu'il existe encore 5 points explosif de vulnérabilité et de menace à la paix sociale dans le système électoral actuel. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Point final à ce journal que vous pouvez réécouter sur voaafrique.com et sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et X. Mille fois merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. Je suis Nanit Talani, firmé Max Koyaweda a assuré la mise en onde. Kelvin Fowler était à la console. Au revoir et à très bientôt.